18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous et bienvenue, ravie de vous accueillir dans cette émission spéciale ce soir à l'avant-veille de la journée internationale des droits des femmes. Il nous a semblé important, voire essentiel, de consacrer 2 heures à cette lutte incessante depuis plus de 70 ans. Alors avec les archives d'Europe 1, on va vous raconter ce soir les grandes étapes de cette conquête, notamment dès 18h20. Et puis on va débattre avec plusieurs invités du chemin parcouru, de ce qu'il reste à faire. Dès 18h30, un plateau de choix. L'essayiste Caroline Fourest, journaliste également très engagée. En face, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Elles seront à mes côtés, en direct, dans ce studio. Mais avant cela, bien sûr, place à l'info. À la une ce soir, des écoles fermées, des manifestations annulées dans le Haut-Rhin pour cause de coronavirus. On est sur place dans un instant dans votre journal, Florence Cohen. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
C'est parti pour écouter ensemble le monde changer avec ce soir une programmation inédite, un podcast en 3 parties que vous découvrirez dès 18h20, puis 19h10 et 19h50 sur cette lutte depuis 1956 pour les femmes. On vous fait vivre tout cela jusqu'à 20h. On écoute donc ensemble le monde changer.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
La priorité de la nation est de protéger nos aînés. Durant cette épidémie, je sais que c'est parfois un crève-cœur, mais il faut au maximum éviter de visiter nos anciens.
Emmanuel Macron appelle chacun à la responsabilité alors que la France s'apprête à passer à la phase 3 contre le coronavirus. 2 décès supplémentaires et 154 nouveaux cas en 24 heures.
Le département du Haut-Rhin voit le nombre de malades exploser, écoles fermées, rassemblements interdits, nécessaires pour le président de région.
On est au début d'un phénomène dont nous ne connaissons pas véritablement l'ampleur. On le voit encore depuis ce matin, les appels au centre 15 sont toujours en nombre.
Et quid des prochains événements sportifs en France? Roland Garros, par exemple, dans ce journal, la réponse en exclusivité du numéro 2 de la Fédération française de tennis. Le virus sème la panique à la bourse. Paris plonge de 4,14%, moins 3,37% à Francfort. Et le pétrole perdait, lui, plus de 9% dans l'après-midi.
À la une également, Michel Fournier est toujours entendu sur la disparition d'Estelle Mouzin. C'était en 2003. Il n'a plus d'alibi depuis le témoignage de son ex-femme.
Et le pape François accepte la démission du cardinal Barbarin, conséquence de ses silences sur les abus sexuels d'un ancien prêtre, le père Prénat.
C'est une bonne décision, mais on espère beaucoup de clairvoyance du pape et elle arrive encore une fois bien tardivement.
Constat d'une association de victimes.
Anissa, du côté du ciel pour ce week-end. Bonsoir à vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien, ça se calme demain avec moins de pluie, plus de soleil. Mais pour l'instant, 5 départements sont placés en vigilance orange crue inondation. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Florence Cohen.
2 nouveaux décès en France à cause du coronavirus. Ça fait 9 morts en tout et 154 nouveaux cas en 24 heures. Au total, 577 personnes infectées chez nous et la hausse est de plus en plus marquée.
Et cette hausse, elle est vertigineuse dans le département du Haut-Rhin. Le nombre de cas a été multiplié par 8 en 48 heures. Plus de 80 malades désormais.
Bonsoir Arthur Mbaché.
Bonsoir Florence.
Vous êtes sur place pour Europe 1 et du coup, le département prend des mesures drastiques comme la fermeture d'une centaine d'établissements scolaires.
Et une centaine d'établissements, ça veut dire entre 30 et 40 000 élèves haut-rhinois en vacances forcées dès ce soir et sans doute pendant 2 semaines. Pas plus de 50 personnes dans un lieu fermé. Le sport à huis clos, pas de mineurs dans les hôpitaux et les EHPAD, mesure contraignante mais légitime, dit le président de la région Grand Est, Jean Rottner.
On est au début d'un phénomène dont nous ne connaissons pas véritablement l'ampleur. Donc on le voit encore depuis ce matin, les appels au SAMU Centre 15 sont toujours en nombre. Les annonces d'aujourd'hui peuvent inquiéter et elles ne doivent pas inquiéter. Au contraire, ce sont des annonces qui doivent sécuriser véritablement une démarche.
La maire de Mulhouse, Michel Lutz, espère trouver des solutions pour libérer certaines catégories de parents qui vont se retrouver coincés avec les enfants à la maison.
Il faut qu'on puisse mobiliser tous les personnels hospitaliers ou soignants à l'heure actuelle. Pour ce faire, il faut que nous leur assurions aussi une garde possible de leurs enfants pour qu'ils puissent exercer leur métier. Nous réfléchissons depuis effectivement ce matin à une solution. Ça peut se manifester qu'on mette un lieu à disposition par exemple. Nous n'avons pas encore déterminer le périmètre et toutes les mesures que nous allons prendre.
Avec le risque, évidemment, en mutualisant la garde d'enfants, de recréer, de refabriquer de nouveaux lieux de circulation du virus. C'est pas simple.
Merci Arthur Mbache. Effectivement, c'est pas simple. Et un nouveau foyer de contamination a été identifié dans le Val d'Oise, cette fois 9 cas, dont un dans un état sévère à Méry-sur-Oise.
Et face à la propagation du virus, Emmanuel Macron en appelle au bon sens.
Le chef de l'État a visité ce matin une maison de retraite à Paris et il formule une demande un peu déstabilisante, il est vrai, ne pas rendre visite aux personnes âgées.
Je veux ici le dire, notre priorité, la priorité de la nation, est de protéger nos aînés. Durant cette épidémie, je sais que c'est parfois un crève-cœur, mais il faut au maximum éviter de visiter nos anciens. Essayez au maximum que les plus jeunes ne fassent pas partie de ces visites, parce que, comme on le sait aujourd'hui, ils transmettent beaucoup le virus. Et ensuite, c'est une organisation au sein des EHPAD qui sera respectée dans les prochaines semaines. Parce que nous allons affronter cette épidémie dans la durée, je ne sais pas vous en donner la durée précise. Et donc il faut que les mesures que nous prenions soient des mesures rigoureuses, responsables, et qu'on puisse aussi tenir dans la durée, tous ensemble.
Les propos d'Emmanuel Macron, alors que plusieurs ministres sont réunis en ce moment autour d'Édouard Philippe. La France devrait passer au stade 3 de lutte contre l'épidémie, sans doute dans les prochains jours. Alors Victor Dolande, on a quelques questions à vous poser. D'abord, quels sont les critères qui font basculer vers ce niveau supérieur ?
Alors en fait, on passera à ce stade 3 quand on n'arrivera plus à expliquer tous les cas de contamination, quand on ne pourra plus remonter la fameuse chaîne de personnes infectées. Pour le moment, on explique encore plus de 70% des cas en France. Autre critère très concret pour passer au niveau supérieur de l'épidémie, il faut que chacun d'entre nous connaisse quelqu'un dans son entourage qui est le virus. C'est le cas, par exemple, pour les épidémies saisonnières de grippe. On connaît toujours une personne autour de nous qui a eu la grippe. Alors oui, il y a plusieurs foyers de contamination importants. C'est le cas dans l'Oise, dans le Morbihan, en Haute-Savoie, à Mulhouse, mais il y a encore beaucoup de zones où il n'y a que quelques cas.
Alors ce niveau 3, Victor, il implique quoi concrètement pour notre vie quotidienne ?
Alors du côté des services publics, pas de fermeture généralisée des écoles dans tout le pays, mais des décisions au cas par cas. Les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné resteront interdits. Ensuite, il s'agira de mobiliser tout le monde de la santé, premier secteur impacté. Ça veut dire que tout le personnel hospitalier sera susceptible d'être rappelé, mais pas que. Les médecins en ville seront aussi fortement mobilisés. Il faudra ensuite faire un tri des personnes contaminées. Les cas les plus sévères seront toujours hospitalisés, avec une vigilance renforcée pour les personnes âgées. En revanche, les cas sans gravité seront invités à rester chez eux pour ne pas surcharger les hôpitaux. Et ce qu'il faut bien comprendre plus largement, c'est que le gouvernement aura les mains libres pour prendre des mesures plus contraignantes si l'épidémie l'impose.
Merci pour ces précisions, Victor Dolande. Après l'hospitalisation d'un député, 4 nouveaux cas sont suspectés à l'Assemblée nationale. On en parle dans le journal de 19h. Et puis le décret qui encadre le prix des gels hydroalcooliques est publié. Pas plus de 3 euros les 100 ml et 15 euros le litre. À l'étranger, un premier décès aux Pays-Bas et premier cas en Serbie, en Slovaquie, au Vatican, au Togo et au Cameroun où le malade est un Français. Dans le monde, il y a plus de 100 000 cas maintenant, dont 3 400 décès.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Florence Cohen et Nathalie Lévy.
Alors, et à suivre dans votre journal de 18h, troisième journée d'audition de Michel Fourniret, ce mystère qui sera peut-être levé sur la disparition d'Estelle Mouzin.
Et puis, le pape accepte la démission du cardinal Barbarin pour tourner la page des abus sexuels dans l'Église.
2 heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Florence Cohen et Nathalie Lévy.
C'est dans la plus grande discrétion que Michel Fourniret est entendu depuis avant-hier maintenant dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. La petite fille de 9 ans a disparu il y a 17 ans en 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne.
Michel Fourniret n'a plus d'alibi depuis le témoignage de son ex-femme Monique Olivier. Alors maintenant tous les soupçons se focalisent sur lui, Guillaume Bier.
Ah oui, plus que jamais, Michel Fourniret est au cœur de l'instruction au troisième jour de son face-à-face avec la juge Sabine Kéris, ici au 13e étage du palais de justice. Troisième jour d'interrogatoire, c'est très rare dans une instruction, mais c'est dire à quel point la magistrate a voulu prendre le temps de questionner patiemment le tueur en série, dont les psychiatres ont déjà décrit maintes fois le caractère pervers, manipulateur, un grand amateur de jeux d'échecs, avec qui la juge tente depuis des mois d'instaurer un dialogue pour l'amener à s'expliquer sur son rôle éventuel dans la disparition d'Estelle Mouzin. Michel Fourniret est mis en examen dans ce dossier depuis son interrogatoire du 27 novembre dernier, lors duquel il avait surtout mis en avant ses troubles de la mémoire, incapable d'être catégorique, mais sans nier, comme il l'avait fait par le passé. « Si j'y étais pour quelque chose, ça ne me ferait rien de vous l'avouer », mais je n'en ai pas souvenance, avait-il dit à la juge, tout en concluant son interrogatoire ainsi, je le cite, « Dans l'impossibilité où je suis de vous dire oui, je suis responsable de sa disparition, je vous exhorte à me considérer comme coupable ».
Les précisions de Guillaume Bier pour Europe 1. C'est fait. Deux jours après leur condamnation en appel à de la prison ferme et à une peine d'inéligibilité pour fraude fiscale, le couple Balkany est démis de ses mandats de maire pour lui, de Levallois-Perret et de première adjointe pour elle. Et cela à quelques jours seulement des municipales.
Ouais. Il l'avait refusé une première fois, mais cette fois-ci, le pape François accepte la démission du cardinal Barbarin. Il n'est donc plus à ce jour archevêque de Lyon-Florence.
Philippe Barbarin, oui, avait été mis en cause puis relaxé pour son silence sur les abus sexuels du père Prénat, qui sera d'ailleurs fixé sur son sort dans 10 jours, pour des faits qu'il a d'ailleurs reconnus. François Devaux est le fondateur de La Parole Libérée, une association qui regroupe les anciennes victimes du père Prénat. Et il est satisfait de cette décision.
Je pense que c'est une bonne décision et que si elle avait été prise un petit peu plus tôt, je pense que ça aurait évité beaucoup de désillusions. Mais voilà, c'est à l'image de la façon dont l'Église gère ses problématiques d'abus sexuels en son sein. Et on espère beaucoup de clairvoyance du pape et elle arrive encore une fois bien tardivement. Il n'y a pas de triomphalisme, on retrouve un peu de cohérence et ça c'est une satisfaction, mais ça va au bénéfice direct de l'Église, des catholiques et de toute leur quête de cohérence, si vous voulez.
Des propos recueillis par Jean-Luc Bougeon.
En France, on s'interroge dans les milieux sportifs. Par exemple, la question Roland-Garros, le tournoi pourra-t-il se jouer ?
Eh oui, c'est l'une des conséquences hypothétiques du coronavirus. C'est dans seulement 2 mois et demi, Roland-Garros, avec ses centaines de milliers de spectateurs à la clé. En exclusivité pour Europe 1, Jean-François Villotte, le numéro 2 de la Fédération française de tennis, se veut, au jour d'aujourd'hui, rassurant.
Nous ne situons pas dans une perspective d'annulation ou de report. Par contre, nous étudions différents scénarios d'organisation pour être des organisateurs responsables et tenir compte des contraintes du moment. Et donc, pour trouver les solutions qui permettront de prévenir le mieux possible toute contamination du virus au moment de l'organisation. Donc, nous travaillons sur différents scénarios qui vont de la gestion des flux d'entrée dans le stade pour qu'ils soient les plus faciles, aisés, fluides pour éviter les abcès de fixation. Nous travaillons des scénarios de distribution d'un certain nombre de kits de produits de prévention. Nous travaillons également à la localisation des spectateurs pour le cas échéant avec les autorités publiques annuler des billets de spectateurs qui proviendraient de risques. Et puis on travaille également sur des hypothèses de jauge. Mais nous serions en mesure de l'organiser. Nous ne sommes pas une enceinte confinée.
Voilà, donc rassurant, mais vigilant, le numéro 2 de la Fédération française de tennis, Jean-François Villotte, joint en exclusivité pour Europe 1 par Corinne Boulou.
De nouveaux titulaires au sein du 15 de France ?
Oui, effectivement, il s'agit de Damien Penaud et de Jefferson Poirot. Ils vont tous les deux être titularisés. Et c'est leur première titularisation dans ce tournoi des 6 nations 2020, alors que la France affronte dimanche l'Écosse.
Exactement, rendez-vous pris. Merci beaucoup Florence Cohen, on se retrouve à 18h30 dans un quart d'heure du côté du ciel. Un peu de répit, Amissa.
Oui, ça se calme, enfin Nathalie, un peu de répit, mais alors attention, nous aurons tout de même sur le quart sud-ouest demain, au niveau du sud de la Garonne et sur les Pyrénées, des averses qui vont durer toute la journée. Avec d'ailleurs sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, encore des chutes de neige à basse altitude à partir de 600 mètres et puis un risque très important d'avalanche sur les Pyrénées, c'est à cause de ces pluies effectivement et de ces températures qui se radoucissent. Alors de la Bretagne jusqu'à la Gironde, là le ciel est couvert demain, mais le temps reste sec et sur tout le reste du pays, nous n'aurons pas de pluie. Et même sur le nord, la région parisienne, les Pays de la Loire, le Limousin, la Champagne-Ardenne et le pourtour méditerranéen, un soleil qui fera de belles apparitions demain. Attention sur le golfe du Lion, le Mistral et la Tramontane qui se lèvent et qui s'ouvrent jusqu'à 90 km/h. Les températures avec des gelées matinales sur le centre et l'est, 6 à 8 degrés au bord de la Méditerranée, 0 à 3 degrés au nord.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
À l'avant-veille de la Journée internationale des droits des femmes, on vous propose 2 heures spéciales ce soir avec un rendez-vous pour démarrer. Mesdames, c'est un podcast que vous pourrez écouter dès dimanche 8 mars en intégralité à partir des archives exceptionnelles d'Europe 1. Un podcast qui retrace 70 ans de lutte, de conquête des femmes. Émission spéciale donc ce soir avec de larges extraits que vous pourrez découvrir pendant ces 2 heures. Premier extrait dans 2 minutes et dans la foulée, un débat exceptionnel également avec 2 femmes exceptionnelles, Caroline Delphine Fourest, journaliste essayiste, et la secrétaire d'État à l'égalité des droits femmes-hommes, Marlène Schiappa. Elles s'installent toutes les deux dans ce studio.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy. Un demi-siècle après la révolution féministe des années 70, le chemin est-il encore long pour parvenir à l'égalité femmes-hommes? À la veille de la Journée internationale pour les droits des femmes, qui aura lieu ce dimanche, le 8 mars, Nathalie, vous recevez à 18h30 dans ce studio deux invités exceptionnels.
Oui, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et Caroline Fourest, journaliste et essayiste. Mais pour planter de décor, d'abord, un retour en arrière historique s'impose. À partir de 250 archives exceptionnelles d'Europe 1, Laure d'Autriche et Sébastien Guidis ont réalisé un podcast en trois parties. Je vous propose tout de suite le premier épisode, de 1956 à la loi sur l'IVG de Simone Veil en 1974. Gros plan ce soir sur les premières luttes des femmes.
Comment voulez-vous dire qu'il y a une loi égale pour les femmes et pour les hommes ?
Travail, famille, patrie, y en a marre !
Mesdames, un podcast Europe 1.
Des enfants et des casseroles.
Casser les stéréotypes. Laure d'Autriche.
Genève, mars 1956. Les Nations Unies organisent une conférence sur les droits des femmes. Le sujet crée déjà des crispations entre les différents pays. La représentante russe s'emporte contre son collègue britannique. Et le journaliste d'Europe numéro 1, Alexis Desfontaines, conclut ainsi son intervention.
Bien que les femmes aient de plus en plus l'accès à la diplomatie, il est vrai qu'elles se laissent pourtant facilement emporter par l'émotion.
À travail égal, salaire égal. La question est posée à Genève et ne disparaîtra plus des débats. Mais encore faut-il que les femmes veuillent travailler. En France, en 1962, il y a des réticences à quitter le foyer.
Vous travailleriez volontiers à mi-temps.
Oui, oui, à mi-temps, d'accord, mais ce serait peut-être difficile parce que je n'ai pas de spécialité. J'aurais les frais de transport, j'aurais la possibilité peut-être, plutôt l'impossibilité pour mon mari de rentrer déjeuner. Peut-être davantage de frais de toilette. Je ne pense pas que ce soit tellement, tellement rentable.
Les femmes gagnent en indépendance. Elles peuvent désormais ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Cette même année 1965, pendant les élections municipales à Brigueil, en Charente, une liste uniquement composée de femmes s'est constituée. La tête de liste, une pharmacienne, remporte 70% des suffrages exprimés et se confie alors au micro de Pierre Bonte sur Europe 1.
Dans certaines choses, les femmes ont plus d'idées que les messieurs.
Dans quel
domaine ? Par exemple, dans le domaine familial, dans le domaine de la perfection des habitations, la modernisation intérieure, dans le domaine des enfants, tout un tas de choses qui peuvent être où les femmes peuvent donner des idées.
Alors le mari à la maison gardant les enfants et la femme à la mairie.
Pourquoi pas ?
Comment imaginer que l'on puisse envisager la carrière féminine, dans quelque domaine que ce soit, à quelque échelon que ce soit, comme identique à une carrière masculine. Ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charge de la maternité.
Ce sont les mots du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas en 1970. Bientôt, le centre promotionnel féminin est créé. Il propose aux femmes au foyer des formations pour que leur vie ne soit plus uniquement consacrée à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères.
Le centre promotionnel féminin a été créé pour répondre à un besoin de formation souvent ressenti chez les femmes de 25 à 45 ans et qui restaient chez elles et qui n'ont eu jusqu'alors que la vision des enfants et des casseroles. Nous avons appris à lire des articles, les analyser, faire des synthèses. Nous avons appris à écrire d'une façon correcte pour une demande d'emploi, pour un entretien avec la municipalité ou avec un avocat.
Mais les femmes qui travaillent se sentent parfois inaudibles. En 1972, les salariés des galeries de Thionville se mettent en grève pendant 9 semaines pour réclamer un salaire minimum plus élevé. Mais dès le premier jour de grève, elles se retrouvent seules face au CRS, presque sans aucun homme pour les soutenir.
Je crois que les femmes ont, à travers cette grève, ont pris une part de responsabilité qu'elles tiendront par la suite, c'est-à-dire qu'elles se considèrent comme des êtres humains et qu'elles revendiquent des droits et que dans l'avenir, ça sera toujours comme ça, quoi. Elles travaillent, elles veulent être payées en conséquence du travail qu'elles effectuent, mais ça s'est répercuté dans la vie familiale aussi. De toute façon, pour moi, la grève est finie, d'une certaine manière, mais la lutte continue.
Les femmes dans la rue ! Les femmes dans la rue !
À la même époque, le mouvement de libération des femmes est dans la rue. Son combat principal, c'est le droit à l'avortement. En 1967, la loi Neuwirth a autorisé la contraception, mais en ce début des années 70, 50 000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année. 343 Françaises signent le manifeste intitulé « Je me suis fait avorter » et le sujet fait la une du Nouvel Observateur. Le combat se poursuit l'année suivante au procès de Bobigny qui secoue tout le pays. Une jeune fille de 17 ans, Marie-Claire, est jugée pour avoir avorté à la suite d'un viol. Elle est défendue par l'avocate Gisèle Halimi qui obtient l'acquittement pour l'adolescente. Dans Europe Soir, en novembre 72, Gisèle Halimi revient sur l'issue du procès.
Vous avez peu d'hommes qui sont poursuivis, même pour complicité d'avortement. Oui, ça, les femmes se trouvent toujours seules à ce moment-là pour rechercher la sonde, pour rechercher l'avorteuse. Et elles sont seules devant le tribunal. Cela, il suffit de prendre les statistiques de notre jugement. Les hommes ne sont jamais poursuivis. Maintenant, dire qu'elle est égale pour tous, je crois que c'est faux. Je l'avais dit en plaidant et je le répète. L'oppression de la femme, elle commençait ce soir-là à Bobigny, où quatre femmes étaient jugées par quatre hommes pour parler de quoi ? De leur sonde, de leur utérus, de l'avortement et de la grossesse. Comment voulez-vous dire qu'il y a une loi égale pour les femmes et pour les hommes ?
Le procès de Bobigny devient le symbole de la lutte pour la légalisation de l'IVG. De plus en plus, des médecins envoient leurs patientes à l'étranger pour se faire avorter, en Suisse ou en Hollande. Une nouvelle méthode va bientôt pousser le gouvernement à légiférer, la méthode Karman. Avec cette méthode, les décès après un avortement baissent radicalement. Pourtant, la société reste divisée. En 72, les centres de planning familial peuvent être agréés par l'État et disposer de plus de moyens. Mais le vote de ce décret ne s'est pas fait sans heurts à l'Assemblée.
Ça se déroule dans la confusion la plus complète, à une heure qui n'était pas prévue. C'est absolument inadmissible. Dans ces conditions, je voterai contre l'ensemble d'un texte que je n'ai pas pu étudier.
Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je suis vraiment navré. Je pense que ce débat ne peut pas être mené à sa fin dans de pareilles conditions, sous peine de bafouer le Parlement.
Ça ira, la société mal à la lanterne. Ça ira, tous les phallocrates, on les pendra. Nous en avons ras-le-bol, des pantins, des guignols. Les femmes se libèrent, nous disons non. Plus d'une ampoulinière, vive la contraception.
Le Parlement rejette aussi en 73 ce projet autorisant l'avortement en cas de danger pour la mère. Le gouvernement est finalement décidé à modifier la loi qui date de 1920, mais il faudra prendre en considération toutes les tendances et toutes les consciences, dit alors le garde des Sceaux Jean Tétinger.
Il faut que le public sache que le problème de l'avortement concerne l'ensemble de la nation. Lorsqu'on fait une loi, on ne la fait pas pour quelques-uns, on la fait pour toutes, pour tous. J'ai le souci, en ce qui me concerne, au nom du gouvernement, d'apporter une solution humaine à ce problème humain.
Permettez-moi de vous faire entendre un enregistrement d'un cœur de fœtus de 8 semaines et 2 jours. Et vous voudriez que nous fassions disparaître les bruits de ce cœur que vous venez d'entendre. Vous voudriez que par notre loi que vous nous proposez, nous ne puissions plus l'entendre.
Nous sommes en novembre 1974 à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, le député René Feit, magnétophone en main, fait écouter les battements de cœur d'un fœtus de 2 mois. Simone Veil présente à ce moment-là son projet de loi pour légaliser l'IVG et doit faire face à une bataille parlementaire sans limite.
Voilà la première partie de ce podcast que vous avez pu découvrir ce soir. Deuxième épisode à 19h10, c'était la globalité. Ce podcast Europe 1 qui sera accessible dimanche 8 mars, après-demain, sur la plateforme Cybelle. L'autre temps fort de ce journal, spécial journée internationale pour le droit des femmes, c'est dans un instant Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et Caroline Fourès, journaliste essayiste qui vient de signer La génération offensée de la police de la culture à la police de la pensée chez Grasset. Elles seront dans un instant dans ce studio, juste après votre rappel des titres, Florence Cohen.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Florence Cohen.
49 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures en Italie, 197 morts au total dans le pays. En France, 2 nouveaux décès dans l'Oise, 9 morts en tout, 154 nouveaux cas en moins de 24 heures. Dans le Haut-Rhin, le nombre de cas a été multiplié par 8 en 48 heures. Une centaine d'établissements scolaires sont fermés et les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Emmanuel Macron appelle au bon sens. En visite dans une maison de retraite à Paris, le chef de l'État nous demande d'éviter autant que possible de visiter les personnes âgées les plus fragiles. Une réunion interministérielle est en cours autour d'Édouard Philippe. Et les places boursières Davis à cause du coronavirus, moins 4,14% à Paris par exemple. Le pétrole a chuté de plus de 9% dans l'après-midi. Le pape François accepte la démission du cardinal Barbarin. Le désormais ex-archevêque de Lyon avait été mis en cause puis relaxé après son silence sur les abus sexuels du père Prénat. Un policier tué et 4 autres blessés dans un attentat contre l'ambassade américaine à Tunis ce matin. Les 2 terroristes sont morts. Damien Penaud et Jefferson Poirot titularisés au sein du 15 de France qui affrontera l'Écosse après-demain. C'est dans le tournoi Destination de rugby.
Merci Florence, l'info revient avec vous dans moins d'une demi-heure. Moins de pluie demain, Anissa ?
Oui, c'est une bonne nouvelle pour débuter le week-end. Ça y est, demain il pleuvra moins. Pas plus du tout, moins, parce que c'est le sud-ouest demain qui est concerné, effectivement, au sud de la Garonne. Et sur les Pyrénées, vous aurez des averses qui vont comme ça rythmer toute votre journée. Mais partout ailleurs, c'est du soleil. Partagé bien sûr avec des nuages. Là où il fera le plus beau, c'est au bord de la Méditerranée, avec quasiment pas de nuages, mais du vent. Le Mistral et la Tramontane qui se lèvent demain et des rafales jusqu'à 90 km/h. Attention, actuellement, nous avons 5 départements vigilance orange, crue et inondation : le Calvados, l'Eure-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres et le Tarn-et-Garonne.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec vous, Nathalie Lévy, et à l'avant-veille de la Journée internationale pour le droit des femmes, c'est ce dimanche, le 8 mars. C'est une émission exceptionnelle que vous nous proposez jusqu'à 20h.
Avec 2 invités exceptionnels, là, dans ce studio, ce soir, la secrétaire d'État à l'égalité des droits des femmes-hommes. Bonsoir Marlène Schiappa.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre
Merci
invitation. Bonsoir Caroline Forest.
Bonsoir.
Bienvenue également, vous êtes journaliste, essayiste, et le titre de votre dernier ouvrage, Génération offensée, aux éditions Grasset. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio après un podcast qu'on va permettre d'écouter aux auditeurs jusqu'à 20h qui retrace les conquêtes des femmes depuis 1956 à aujourd'hui. Et je voudrais d'abord faire un petit retour en arrière, assez récent finalement, novembre 2017, Emmanuel Macron, le président de la République, déclare l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. Marlène Schiappa, depuis le début de votre mandat, à l'avant-veille de cette journée du 8 mars, comment le droit des femmes a-t-il progressé en France ?
On a fait progresser le droit des femmes sur plusieurs aspects. D'abord, et je le dis parce que c'est important et c'est assumé, je crois que l'égalité femmes-hommes, c'est aussi un combat culturel. C'est lutter contre le sexisme pour ne rien laisser passer. Et j'observe que depuis 2 ans, grâce à la grande cause du quinquennat, mais aussi et beaucoup grâce aux mobilisations de la société civile et des femmes, on parle énormément de l'égalité femmes-hommes et on pointe ce qui a avancé. Ensuite, dans les mesures concrètes, je pourrais vous en citer quelques-unes. Nous avons créé d'abord la verbalisation du harcèlement de rue. Nous sommes le premier pays au monde à l'avoir fait. Il y a plus de 1500 verbalisations pour harcèlement de rue. C'est désormais interdit de suivre, d'importuner, comme on dit, les femmes dans l'espace public. Nous avons allongé les délais de prescription pour les viols, et notamment les viols sur mineurs. Nous avons créé un congé maternité pour toutes les femmes. Nous avons créé un index d'égalité salariale en passant d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Nous avons créé un Grenelle des violences conjugales avec 100 mesures, je vous épargne la liste, qui sont vraiment des mesures de nature à changer la donne pour les femmes victimes de violences conjugales.
Et c'est là où je me tourne vers vous, Caroline Forest. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans les mesurettes, où on est véritablement dans des avancées depuis donc 2017, et est-ce que Marlène Schiappa a une grande marge de manœuvre dans son ministère ?
Honnêtement, je sais qu'on est dans une époque où on est toujours dans la critique, sinon on est accusé d'être complice. Mais moi, j'ai toujours envie de remarquer quand le progrès est là et quand on avance. Et je trouve que les mesures dont vient de parler Marlène Schiappa, c'est pas rien. Le harcèlement de rue, c'est quelque chose qui pourrit la vie au quotidien des femmes. Et le fait d'avoir pensé à ce qu'on puisse en faire un délit, ça n'est pas rien. La question, évidemment, de la prescription pour les viols, ça n'est pas rien. On voit bien dans les polémiques que nous traversons, à quel point le fait que, lorsque la justice ne passe pas, nous soyons tous transformés en juges pour essayer de compenser cette justice qui ne passe quasiment jamais, en réalité, pour les affaires de viol. Donc tout ça ne s'est pas du tout anecdotique. Ensuite, évidemment, c'est un secrétariat d'État aux droits des femmes, à l'intérieur des gouvernements, et on ne peut pas entièrement dissocier la question des femmes de la question sociale. Et donc là, c'est un mandat bien plus large. Et là, chacun a son avis sur est-ce qu'il est suffisamment pris en compte par ce gouvernement la question de la dégradation de la qualité de vie, du niveau de vie, de la précarisation des petites retraites, des gens en général. On voit bien que non.
Ouais. On va aller sur les salaires des femmes aussi dans un petit instant, sur le monde de l'entreprise. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. On l'a vu il y a quelques jours, ne serait-ce que dans les médias, hein, pour parler uniquement d'eux. Mais on va revenir aussi sur l'actualité de vendredi dernier. Il y a pile une semaine de cela, 45e édition des Césars. On voit une scène assez longue, où les femmes se prennent en quelque sorte le pouvoir. On entend Florence Foresti, on voit le départ d'Aden Allen, Anel. Certains ont parlé de radicalisme, Marlène Schiappa, radicalisme féministe. Est-ce que c'est de cela que vous parlez aujourd'hui? Est-ce que c'est comme cela que vous le nommez? Et est-ce une déviance, selon vous?
Je ne sais pas si on peut parler de radicalisme quand on a en réalité moins... Bien sûr, j'entends les guillemets et l'italique, mais quand on a en fait moins de 10 personnes qui quittent la salle et des Césars remis au pluriel à un homme qui est accusé de viol. Moi, ce que j'observe, c'est que certains ont dit que les femmes parlant des violences sexuelles à l'occasion des Césars gâchaient la fête. Mais ce qui gâche la fête, ce sont les violences sexuelles. Et ça, c'est une phrase que les victimes de violences sexuelles entendent partout, même au dehors du cinéma, dans les familles, dans les entreprises. Ne gâche pas la fête de Noël, sois gentil avec ton oncle, peu importe ce qu'il t'a fait. Ne gâche pas le pot de départ de fin d'année d'un tel, c'est pas grave s'il a
c'est
été harceleur.
C'est ce que vous avez vu, Marlène Schiappa, vendredi soir lors de la cérémonie des Césars, où vous avez vu peut-être aussi l'art récompensé.
Alors, je ne suis pas allée à la cérémonie des Césars, je suis allée voir une conférence de Raphaël Lintoven qui s'appelait Vivre ensemble, point d'interrogation.
Mais vous avez su.
Ensuite, bien sûr, j'ai suivi ensuite les Césars et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, on a peu parlé de cinéma. Je souhaiterais qu'on puisse parler davantage de cinéma aux Césars, mais pour cela, ça veut dire qu'il faudrait, comme l'a dit très justement Caroline Fourest, que la justice puisse passer et que les femmes n'aient pas ce sentiment d'impunité vis-à-vis des violences sexuelles. Il n'y a que 1% des violeurs en France qui sont en prison. Tout le sens de mon action au gouvernement, c'est de permettre justement d'augmenter ce pourcentage-là.
Qu'en avez-vous pensé, Caroline Fourest? Vous avez déjà beaucoup écrit dessus ces jours-ci, évidemment, depuis cette cérémonie. Est-ce qu'on est dans une forme de radicalisme qui est nécessaire ou qui peut être dangereux?
Alors, écoutez, il va falloir mettre les
pendules à l'heure.
Les pendules à l'heure, parce que si le radicalisme, c'est Florence Foresti et ou même Adèle Haenel, plus rien, plus aucun mot n'a de sens. J'aurais compris qu'on soit dans cet état, et je suis un peu surprise honnêtement de l'état de certains, qu'on soit dans cet état d'émotion et de rage si on avait, dans ce pays, interdit les films de Roman Polanski, si J'accuse n'avait pas pu être dans les cinémas, et je me serais élevée, et je me suis élevée d'ailleurs, j'ai dit très clairement, et d'autres féministes ont dit très clairement, non, ça n'est pas une raison pour censurer ces films. Maintenant, que l'on ne nous demande pas d'applaudir, bon sang, au fait de récompenser l'homme réalisateur pour la 5e fois, comme s'il y avait vraiment personne d'autre en termes de réalisation qui méritait cette année le César, et en réalité, comme si MeToo n'était pas passé. C'est normal qu'à un moment donné, on n'applaudisse pas.
C'est normal qu'aujourd'hui, on n'applaudisse pas. Sauf que, vous l'avez entendu, mesdames, ça génère véritablement une grosse émotion dans notre société aujourd'hui, des vagues, des confrontations, des scissions même. Ces scissions, je voudrais qu'on y revienne dans un petit instant, si vous le voulez bien, à l'occasion de cette émission spéciale.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec une émission spéciale ce soir à l'avant-veille de la Journée internationale pour le droit des femmes qui aura lieu ce dimanche le 8 mars. Vous nous proposez une émission exceptionnelle jusqu'à 20h, Nathalie Lévy. Avec vos invités, vous recevez Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et la journaliste et essayiste Caroline Fourest.
Et oui, qui signe Génération offensée de la police à la culture, de la police de la culture à la police de la pensée aux éditions Grasset, qui est sortie il y a quelques jours, la semaine dernière précisément, Caroline Fourest. On se parlait des Césars il y a quelques instants parce que ça crée des débats dans les familles, des débats entre amis, parfois même très virulents. On voit même une certaine fracturation de la société depuis la semaine dernière, une indignation autour de la libération de la parole des femmes. Est-ce que la société est vraiment prête à cela, en fait, aujourd'hui, Marlène Schiappa, Caroline Fourest?
J'observe que la société a évolué, puisque je vous rappelle qu'en 2014, pour les cinéphiles qui nous écoutent, lors de la cérémonie des Césars, Adèle Haenel et Roman Polanski avaient été récompensés. Meilleure actrice pour elle, meilleur réalisateur pour lui. Ça n'avait fait provoquer aucun tollé, il n'y avait pas eu de manifestation, pas de protestation. Ça veut dire que ça nous permet de mesurer qu'en 6 ans, la société a évolué et ne tolère plus maintenant des choses qu'elle tolérait avant. Et que la situation évolue à cet égard. Et maintenant, la question collectivement qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'évolution de cette situation et comment on en fait quelque chose de radical dans la lutte contre les violences sexuelles, mais de général dans la manière dont on partage un même espace de vie et de loisirs, femmes et hommes, ensemble.
Caroline Fourest,
on sent que cette société a libéré, cette soirée a libéré un peu tous les démons qu'on redoutait. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez effectivement ceux qui ne veulent plus entendre parler de la moindre nuance, par exemple, entre un créateur et son œuvre. Je pense que c'est important de garder cette nuance, de pouvoir continuer à penser qu'une œuvre est plus grande que son créateur. Sinon, effectivement, on va retirer tous les livres et on va peut-être ne plus regarder beaucoup de films. Et en même temps, il y a ceux qui nous expliquent que ne plus considérer comme anodin le fait d'être accusé, multi-accusé, ou d'avoir même reconnu des relations avec des jeunes filles mineures, après MeToo, nous explique que ça, c'est un totalitarisme, c'est un autre excès.
Oui, Caroline Fourest, n'est-ce pas, y a-t-il pas derrière quand même le risque d'une cristallisation telle qu'on oppose aujourd'hui, demain, les hommes aux femmes, véritablement deux sexes, et que pour nos enfants, pour nos filles, on laisse finalement cet héritage.
Mais c'est pas les hommes aux femmes, là on est juste en train de parler de cas d'agression ou de pédocriminalité, on n'est même pas en train de parler de la séduction. Et en réalité, ce qui est très triste dans cette soirée, c'est qu'effectivement, les hommes et les femmes n'ont pas vu la même soirée.
C'est ça. C'est
les Juifs et les Noirs n'ont pas vu la même soirée. Et moi, j'y vois vraiment le poison victimaire était à l'œuvre partout. Je l'ai vu, encore une fois, quand une comédienne vient compter les Noirs dans la salle, mais ne les voit pas sur scène en train de triompher, ne voit pas que les Misérables triomphent depuis un an et dominent le cinéma français. Ne voit pas qu'aussi certaines féministes sont capables de focaliser sur Polanski, mais n'ont jamais voulu aborder justement les casseroles masculinistes de ce réalisateur par peur de flatter le racisme. Et ce que je constate, parce que ça c'est plus nouveau et ça m'inquiète grandement, c'est que je vois la même chose chez des gens qui, parce qu'ils sont inquiets de l'antisémitisme et bon sens qu'on les comprend, et parce qu'ils aiment J'accuse et parce qu'ils pensent que J'accuse est nécessaire, et c'est vrai, mais on sent aujourd'hui à nous demander de choisir entre la lutte contre l'antisémitisme et le féminisme et la lutte contre le sexisme. Ça n'est pas possible non plus, parce que c'est le même raisonnement identitaire et victimaire qui fait, encore une fois, qu'on ne juge plus ces affaires-là en fonction de la gravité des faits reprochés, mais de l'identité de ceux qui les ont, qui les a commis. C'est l'âge identitaire dans toute sa splendeur et on n'en reviendra pas.
Bon, alors je voudrais un petit peu, si vous le voulez bien, aller sur peut-être des choses plus pratiques, plus concrètes dans la vie des femmes aujourd'hui au travail. Parce que vous avez, vous, Marlène Schiappa, évidemment travaillé beaucoup sur le sujet et vous avez été reçue en début de semaine, le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes sur le sexisme à la télévision et puis reçue par le MEDEF pour parler des quotas dans les comités exécutifs des entreprises. On est bien d'accord ?
Tout à fait.
Où en est-on aujourd'hui ? Temps de parole des femmes dans les médias, 36%. Qu'est-ce qu'on se dit ? Qui sont les bons ? Qui sont les mauvais élèves ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ?
Oui, ce qu'on observe, c'est que tous ces sujets-là sont liés. Et je crois que la lutte contre les violences sexuelles, elle est liée à la lutte pour l'émancipation économique des femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Les femmes dans l'espace public, elles sont jugées avant tout pour leur apparence, leur physique, à quoi elles ressemblent, avant d'être jugées sur ce qu'elles disent. Il suffit de regarder les réseaux sociaux et de voir un expert invité dans une émission de télévision et une experte invitée dans une émission de télévision. Les commentaires ne porteront pas sur le fond. Si c'est une femme, majoritairement, ils porteront sur la forme. Donc nous voulons lutter contre cela et lutter contre ce sexisme qui empêche les femmes de créer des entreprises. Il y a en France moins de créations d'entreprises portées par les femmes que par les hommes. Est-ce qu'elles ont moins d'idées ? Non, je ne le crois pas, mais j'observe qu'elles sont moins soutenues. Donc avec Bruno Le Maire, nous travaillons à un projet pour l'égalité femmes-hommes dans l'économie, pour lever toutes ces barrières et très concrètement, financièrement, soutenir les projets de création d'entreprises portées par les femmes.
Alors, Caroline Fourest, il y a des sanctions, typiquement, déjà, en les exposant dans la presse, la campagne de Name and Shame pour les entreprises qui n'ont pas atteint la bonne égalité, l'égalité homme-femme. Est-ce que c'est suffisant, ça ?
Mais justement, si on pense que le fait de beaucoup débattre de ces questions, de nommer et de faire honte est en soi un radicalisme, je pense qu'on ne mesure pas que l'étape d'après, ce sont des mesures coercitives qui, à mon avis, peuvent générer aussi des retours de bâton et peuvent être contre-performantes. Je préfère qu'on s'éveille ensemble à avoir ce regard féministe surtout qui nous permet de regarder et de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Parce qu'avant, on ne s'apercevait pas que les hommes parlaient énormément et que quand les femmes prenaient le micro, on trouvait déjà que c'était trop long. On ne s'apercevait pas qu'effectivement, dans les émissions d'expertise, il n'y avait que des hommes et là, c'est une co-responsabilité. parce qu'il y a le fait de considérer que la figure de l'expert est plutôt masculine, mais il y a aussi le fait que les femmes n'ont pas assez confiance en elles pour s'autoriser à venir répondre à des invitations de médias pour parler de sujets qu'elles ne maîtrisent pas entièrement. Alors, quelque part, c'est séduisant qu'elles se disent « je ne suis pas assez légitime ». Mais malheureusement, c'est souvent le symptôme d'un manque de confiance en soi. Et moi, vraiment, si c'est un message que j'essaie de faire passer partout, chaque fois qu'on me dit « c'est quoi la différence entre les hommes et les femmes ?» La confiance en soi.
La confiance en soi. Quel rôle, justement, quel rôle doivent avoir les hommes dans cette lutte qui a démarré maintenant 1956 à peu près, qu'on a pu réentendre et qu'on entendra jusqu'à 20h dans ce podcast exceptionnel sur Europe 1. On s'en parle, Marlène Schiappa, Caroline Forest, juste après.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et à l'avant-veille de cette journée internationale pour le droit des femmes, c'est ce dimanche. C'est une émission exceptionnelle que vous nous proposez ce soir, Nathalie, jusqu'à 20h avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et la journaliste et essayiste Caroline Forest. Elles sont vos invitées.
Merci à vous, mesdames, d'être dans ce studio ce soir. Caroline Forest, qui signe Génération offensée, de la police de la culture à la police de la pensée aux éditions Grasset. On a parlé évidemment de l'égalité hommes-femmes en entreprise. Et je voudrais juste faire un petit zoom avec vous, si vous le voulez bien, Marlène Schiappa, ailleurs que dans les médias, dans la sphère politique que vous connaissez maintenant parfaitement. Est-ce que vous souffrez de sexisme dans vos fonctions et comment ?
Oui, bien sûr. La sphère politique, elle n'est pas à part de la société. Et moi, je suis toujours révoltée quand j'entends des gens nous dire « Ah, il y a du sexisme en politique partout, sauf dans mon parti. Hein. Dans mon parti politique, tout le monde est gentil, génial, super et pas sexiste. » C'est pas vrai. Un parti politique, il n'est pas en dehors de la société.
Comment
un gouvernement, il
comment
n'est pas
traduit,
en dehors
Marlène
de
Schiappa.
La société. Mais vous savez, ça commence par les stéréotypes qu'on évoquait tout à l'heure. Et je vous le disais, la journée d'une femme politique n'est pas la même que celle d'un homme politique. Je vais vous donner une anecdote. J'en aurais 10 000, mais une. Moi, quand je suis en déplacement professionnel à l'étranger, on me demande toujours qui est en train de garder mes enfants, qui ont 13 et 8 ans. Mmh. Et quand je réponds que c'est leur papa, on me répond toujours « Ah, il est gentil !» J'ai plusieurs collègues hommes qui ont des familles nombreuses, qui ont plus d'enfants que moi, qui ont des bébés et même des nouveau-nés. On ne leur demande jamais où sont leurs enfants. Et si, par hasard, ça vient dans la conversation parce qu'on l'a demandé à une femme et qu'ils disent que la maman est en train de garder les enfants... Personne ne dit jamais « elle est gentille, elle pourrait être en train de faire autre chose ». Parce que ça va de soi, comme si le rôle naturel d'une femme, c'était toujours d'être à la maison avec les enfants. Même en 2020, on n'est toujours pas sorti de l'image de Caroline Ingalls.
On n'y est pas, Caroline Forest. On n'y est pas, ça fait plus de 50 ans. Combien de temps encore?
Comment ça,
50
ans? Ça fait plusieurs siècles, oui. Nathalie Lévy.
Bien sûr.
Vous vous rendez compte?
On reste dans notre podcast, pardonnez-moi,
Excusez-moi.
Avez raison. Mais
on essaie de renverser des choses là qui sont quand même juste à la fondation du monde. Le rapport de force et de domination dont nous parlons, c'est pas une petite discrimination par-ci par-là, c'est constitutif de notre âme, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on a grandi, qu'on a été socialisé, c'est comme ça qu'on a appris à aimer. Enfin, même, ça touche notre intime, ça touche absolument toutes les parties de notre vie. Donc, c'est une révolution immense. C'est pour ça que je la trouve, moi, si belle, parce qu'elle se fait toujours sans, contrairement à ceux qui redoutent en permanence que ce soit la guerre ou qu'on les castre. Oui, bien sûr que c'est bouleversant, bien sûr que c'est troublant, bien sûr que c'est fatigant, que ça pose mille questions. Mais comme femme, on est assez habitué à être en permanence épuisé par tous les rôles qu'on voudrait nous voir jouer.
Cela,
c'est aux hommes aussi de partager avec nous ce fardeau.
Et c'était mon teasing il y a quelques instants. Ces hommes, que peuvent-ils faire aujourd'hui? Quelle peut être leur contribution? Comment peuvent-ils changer, évoluer pour être main dans la main dans ce combat pour les femmes?
Mais d'abord, ils sont en train de progresser, sincèrement.
C'est déjà le cas?
Mais bien sûr, les nouvelles générations ne sont pas comparables à celles d'avant en termes. Bien sûr qu'on voit bien que sur la répartition des tâches ménagères, on en est encore très très loin. Ce que disait Marlène Schiappa à l'instant, c'est vrai que ça reste encore exceptionnel. Un compagnon qui vraiment trouve normal de laisser plutôt sa compagne s'épanouir. Mais ça existe de plus en plus. Et les rapports de séduction sont aussi beaucoup plus intéressants. On parle de la phase angoissante. Ouais. C'est angoissant de ne pas savoir à quel moment peut-être un homme devient trop pressant. C'est angoissant pour eux de ne pas savoir cette limite. Mais en même temps, ça rend les jeux de séduction beaucoup plus intéressants. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'ils étaient primaires jusqu'à présent, pardon. Donc là, on a envie d'avoir des conversations. Il ne suffit pas d'aller au restaurant, il ne suffit pas d'avoir une grosse voiture. C'est vachement plus intéressant.
Vous parlez de séduction, Caroline Forest. Je vais plus loin avec vous, Marlène Schiappa. Je parle de harcèlement. C'est-à-dire, je veux dire par là que quand un homme est beau, on parle de séduction. Quand un homme est laid, on parle de harcèlement.
Non, mais on ne dit jamais qu'un homme est laid. Excusez-moi, pardon, juste on dit jamais qu'un homme est laid.
Ça vous a jamais entendu, Caroline Forest.
Moi, je suis impressionnée du fait qu'on parle tellement peu du physique des hommes. Et c'est impressionnant, ils peuvent jouer des rôles où ils sont absolument...
Les hommes n'ont pas de corps, pas de style, on tolère beaucoup plus les rides et les cheveux blancs ou les calvities naissantes ou pas des hommes que les rides et les cheveux blancs des femmes. Regardez à la télévision à quoi ressemblent les femmes et elles doivent être à la fois très compétentes et très jolies pour les journalistes, les expertes, les animatrices de télévision. Un homme doit être un homme.
J'entends bien, mais Marlène Schiappa, je vous repose la question. Quand aujourd'hui on entend cette phrase, quand l'homme est charmant, quand l'homme est séduisant, c'est de la séduction,
c'est de la drague. Je suis pas du tout d'accord.
Quand l'homme est collant et de surcroît,
c'est pas ça la différence. Pardon, mais à mon sens, la différence n'est pas ça. La différence, c'est le consentement. D'abord, un homme beau ou pas beau, c'est très subjectif. Il y a les critères de beauté universels pour Mister France, mais on n'aime peut-être pas toute Mister France autour de la table. Donc, je crois que les critères de la séduction, ils sont très variables d'une personne à une autre. La ligne, c'est le consentement. C'est pas la beauté ou les critères. La ligne, c'est est-ce que je suis d'accord pour entrer dans un jeu de séduction avec cette personne, ou est-ce que j'ai dit non et la personne est en train de me suivre dans la rue, de m'intimider, de m'insulter, etc. Je crois que les femmes qui ont déjà subi du harcèlement de rue savent parfaitement et sans aucune ambiguïté faire la différence entre de la séduction et du harcèlement de rue. Mais le harcèlement de rue, c'est pas quelqu'un qui ôte son chapeau haute forme en disant « Paris est bien trop petit pour un si grand amour, est-ce que je peux me permettre de vous raccompagner chez vous ?» C'est pas ça dont on
parle. Le rôle des hommes, pour conclure, alors véritablement, Marlène Schiappa,
il est fondamental
aujourd'hui...
pour plusieurs raisons. D'abord, pour du pragmatisme, parce que ce sont encore les hommes qui ont les principaux postes de pouvoir les plus importants de ce pays. Et donc, si les hommes ne sont pas avec nous, on ne progressera pas. Ça, c'est pour l'aspect pratique.
Et est-ce qu'ils sont avec nous aujourd'hui pour... Est-ce que vous voyez ça évoluer
je crois qu'on peut pas dire les hommes ou les femmes. Moi, j'ai été élevée par mon père. Je suis mariée avec un homme extrêmement engagé pour l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai dans mon cabinet des hommes qui font énormément pour faire progresser la condition
mais
des femmes.
Mais on est à Paris,
le président
Paris
de la République
la France,
est un changement. Mais enfin, ça n'a aucun rapport.
Je sais pas.
Bien sûr. Bah, mon père est né à Rabat, il est corse. Quel rapport avec on est à Paris ? C'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Moi, j'ai grandi en cité HLM. C'est pas une question de Paris, pas Paris, âge, pas âge. Moi, je crois pas non plus à cette histoire de génération, de dire les vieux sont des gros libidineux sexistes et les jeunes sont formidables et changent les couches des bébés. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très individuel et de très personnel. Et heureusement, on a besoin des individus pour s'engager. C'est ce que fait d'ailleurs le président de la République, qui est un homme et qui est un champion e4chi pour l'ONU, pour son action pour la diplomatie féministe.
Merci mesdames, on pourrait en parler 2h15 au moins. Génération offensée, votre ouvrage, évidemment Caroline Fourest aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'être venues ce soir nous parler toutes les deux de cette journée des droits des femmes. Ce sera dimanche. On se retrouve nous dans un instant.
Restez avec nous dans un instant, le journal de 19h. Vous écoutez Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. Suivre Nathalie Lévy pour la prochaine heure.
À suivre, mesdames, ce podcast que nous vous proposons à la veille de cette journée des droits des femmes, journée universelle, à partir des archives exceptionnelles d'Europe 1, un podcast deuxième partie, donc dès 19h10, qui retrace 70 ans de lutte des femmes, émission spéciale ce soir sur Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Florence Cohen et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
On suspend les visites, il y a peu de probabilité que le virus entre dans un établissement. Maintenant, le risque, c'est qu'on peut avoir des gens pendant 2-3 mois qui n'ont aucune visite.
Les dirigeants de maisons de retraite mitigés après les déclarations d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État appelle à limiter au minimum les visites aux personnes âgées pour contrer le coronavirus. 2 décès de plus en France. Le Haut-Rhin prend des mesures drastiques car le nombre de cas monte en flèche. Des suspicions de cas aussi à l'Assemblée nationale.
Et les marchés financiers qui dégringolent. Paris a perdu plus de 4%. Le pétrole a plongé de 9% dans l'après-midi.
Et par ailleurs, le pape François accepte la démission du cardinal Barbarin, conséquence de ses silences concernant les abus sexuels du père Prénat.
Et le ciel avec vous, Alissa.
Nous aurons un peu de pluie, mais beaucoup plus de soleil pour demain. C'est un week-end qui commence bien. Ce soir, 5 départements sont placés en vigilance orange, crue et inondation par Météo France. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Florence Cohen.
Le département du Haut-Rhin a la lutte contre le coronavirus. Le nombre de cas y a été multiplié par 8 en 48 heures, plus de 80 malades. Et des mesures drastiques, fermeture d'une centaine d'établissements scolaires, rassemblement de plus de 50 personnes interdits et le conseil de ne pas rendre visite aux personnes âgées déjà fragiles.
Et en visite dans une maison de retraite à Paris, Emmanuel Macron a donné le même conseil. À l'échelle nationale, le chef de l'État appelle au bon sens.
Pour Pascal Chanvert, président de l'ADEPA, l'Association des directeurs d'établissements pour personnes âgées, la déclaration d'Emmanuel Macron est à double tranchant.
limiter encore plus. Alors, c'est absolument pas souhaitable pour les gens, parce que ne pas voir les gens qu'on aime pendant 3 mois, c'est insupportable. Maintenant, en période tout à fait particulière qui est celle dans laquelle nous sommes, cette question, elle va se poser. Mais ça mérite d'être examiné sous l'angle du bénéfice et du risque. C'est toujours cela qu'on fait dans une situation de crise. Le bénéfice, évidemment, c'est que si on suspend les visites, il y a peu de probabilité que le virus entre dans un établissement. Le risque, c'est qu'on peut avoir des gens pendant 2-3 mois qui n'ont aucune visite. Est-ce que vous, vous accepteriez de ne pas voir les gens que vous aimez, vos parents, votre famille, vos amis, pendant 3 mois ? Je ne suis pas sûr.
Pascal Chanvert avec Marion Gauthier pour Europe 1. La France compte 2 décès supplémentaires en 24 heures. Ça fait 9 en tout et 577 cas au total. Un nouveau foyer de la maladie a été détecté à Méry-sur-Oise, dans le Val-d'Oise.
Et le coronavirus qui s'est invité à l'Assemblée nationale, un député est toujours hospitalisé, hein, d'ailleurs en réanimation. Un salarié de la buvette est lui infecté et 4 autres sont suspectés.
Adrien Beck, vous étiez à l'Assemblée aujourd'hui et il faut bien le dire, c'est une institution. À l'arrêt, plus d'élus et plus de visites.
Ce matin encore, une classe de CM2 s'arrête devant les bustes d'Olympe de Gouges et de Jean Jaurès. Depuis, la célèbre salle des 4 colonnes s'est vidée, visite reportée. Pour cause de trêve électorale, la plupart des députés sont rentrés chez eux. Stéphane Travert, élu dans la Manche, a prévu des mesures pour ses collaborateurs qui restent au Palais Bourbon.
Nous pouvons les encourager à faire aussi du télétravail pendant quelques jours. Cette période de trêve n'est pas une période de vacances puisque nous continuons à travailler. Il y a du travail sur le terrain, bien évidemment.
Avec les vacances parlementaires, la ruche Assemblée nationale s'est vidée. Une chance pour nous, dit un pilier des lieux. Mais les députés présents ces derniers jours sont inquiets. La buvette de l'Assemblée est un bouillon de culture, confie l'un d'eux. Le député du Haut-Rhin, Bruno Fuchs, lui, prend sa température 2 fois par jour depuis lundi.
Il vaut mieux que je reste ici 24-48 heures pour voir comment évoluent éventuellement des symptômes et protéger des concitoyens avec lesquels j'aurais pu être en contact. Je regagnerai ma circonscription samedi ou dimanche.
Et dans un palais Bourbon vide pour 2 semaines, l'ensemble des restaurants et buvettes seront désinfectés ces prochains jours.
Reportage d'Adrien Beck à l'Assemblée nationale. Une réunion interministérielle est en cours autour d'Édouard Philippe. La France pourrait entrer dans le niveau 3 de lutte contre ce coronavirus dans les prochains jours.
Et le virus sème une panique totale sur les marchés financiers. Emmanuel Duteil, de Paris à New York, c'est simple, c'est la chute générale.
Oui, le développement rapide de l'épidémie en Europe et surtout son développement aux États-Unis qui était jusque-là relativement épargné, déroute les investisseurs. Si le coronavirus se propage fortement là-bas, le coût pour les entreprises pourrait être énorme. La baisse générale des échanges commerciaux et la baisse de l'activité font également fortement reculer le prix du baril de pétrole. Alors c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font souvent le plein. En revanche, ça affecte toutes les entreprises qui en sont très dépendantes et ça fait aussi fortement baisser leur action en bourse. C'est vraiment ce qui explique que les baisses soient en ce moment aussi fortes. Il faut imaginer qu'en 2 semaines, le CAC 40 a effacé une année assez historique de progression. La baisse d'aujourd'hui est la plus forte sur une journée depuis le vote des Britanniques en faveur du Brexit en février 2016.
Et l'Italie qui enregistre, Florence Cohen, on l'a appris tout à l'heure, 49 nouveaux décès en 24 heures. Il y a près de 200 morts désormais dans tout le pays.
En Italie, où la classique cycliste Milan-San Remo est annulée, elle devait débuter le 21 mars. Annulation aussi des finales de Coupe du Monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo. Et sur Europe 1, il y a une heure, le numéro 2 de la Fédération Française de Tennis, Jean-François Villotte, s'est montré rassurant à 2 mois et demi de Roland-Garros. On n'est pas dans l'hypothèse d'un report, a-t-il dit.
Et le reste de l'actualité en bref.
Michel Fourniret, toujours entendu dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin il y a 17 ans en Seine-et-Marne. Le tueur en série n'a plus d'alibi depuis le témoignage de son ex-femme il y a quelques mois. Le pape François accepte la démission du cardinal Barbarin. Il n'est donc plus archevêque de Lyon. Philippe Barbarin a été mis en cause puis relaxé pour son silence sur les abus sexuels du père Prénat qui sera lui fixé sur son sort dans 10 jours pour des faits qu'il a reconnus sur 2 jeunes scouts. Et puis de nouveaux titulaires au sein du 15 de France qui affrontera l'Écosse après-demain dans le tournoi des 6 nations de rugby. Il s'agit de l'ailier Damien Penaud et du pilier Jefferson Poirot.
Merci Florence Cohen, à tout à l'heure 19h30, Anissa, du côté du temps, moins de pluie, plus de soleil demain.
Ouais, c'est un bon programme pour un samedi, effectivement Nathalie, le temps sera principalement sec demain sur l'ensemble du pays. Après la dissipation des quelques brumes et brouillards matinaux sur le Grand Est, les éclaircies vont définitivement prendre le dessus. Alors sur toute la moitié est demain, des Ardennes jusqu'au Massif Central, de l'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur, eh bien la journée sera plutôt ensoleillée. Il y aura quelques passages nuageux, mais rien pour venir gâcher cette belle journée. Sur la moitié ouest, là, C'est un autre temps qui s'annonce. Du nord jusqu'au Pays Basque, les nuages seront nombreux, ils seront gris, ils seront épais. Sur la Garonne, le sud de la Garonne,
oui, la Garonne.
et les Pyrénées, eh bien vous aurez des averses qui vont rythmer toute votre journée du matin jusqu'au soir. Sur les Pyrénées, le Massif central et la Corse, il va neiger demain à partir de 600 mètres à basse altitude. Attention tout de même au risque d'avalanche hein, sur les Pyrénées, il est assez important. Demain, le Mistral et la Tramontane soufflent fort dans le sud sous le soleil. Vous aurez des rafales à 90 km/h. Actuellement, 5 départements sont placés en vigilance orange cru et inondation. Soyez extrêmement prudents dans le Calvados, l'Eure et Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres et le Tarn-et-Garonne. Et puis demain matin, nous aurons moins 1 à Auxerre, 0 à Reims, 2 à Paris et jusqu'à 8 degrés à Biarritz.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec un nouvel épisode de notre podcast événement ce soir, ça s'appelle Mesdames, épisode 2 à suivre, signé Laure d'Autriche, Sébastien Guidi, c'est les archives exceptionnelles d'Europe 1, l'histoire du féminisme, on entame une nouvelle période et puis deux nouvelles invitées vont nous rejoindre également dans ce studio.
Journée internationale du droit des femmes, dimanche, on en parle dès ce soir avec une émission spéciale sur Europe 1 jusqu'à 20h. Il est 19h10 sur Europe 1, à l'avant-veille de cette journée internationale du droit des femmes. C'est ce dimanche, le 8 mars. Vous nous proposez, Nathalie Lévy, ce soir un grand journal exceptionnel jusqu'à 20h.
Eh oui, depuis le mouvement mondial MeToo jusqu'aux marches Nous Toutes contre les violences faites aux femmes un peu partout dans le monde, les mouvements féministes transforment en profondeur les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. De nouvelles invitées dans ce studio dans un instant. Mais d'abord, deuxième épisode ce soir de notre podcast réalisé à partir d'archives exceptionnelles d'Europe 1 par Laure d'Autriche et Sébastien Guidis. Cette fois, nous sommes entre 1974 et 1999, les trois décennies où les droits des femmes ont gagné en indépendance.
Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui.
Mesdames, un podcast Europe 1.
Il y en a marre d'être payé beaucoup moins que les hommes, marre de tout ça, quoi, des trucs habituels.
De nouveaux droits. Laure d'Autriche.
Le 26 novembre 1974, à l'Assemblée nationale, Simone Veil monte au pupitre pour présenter son projet de loi sur la légalisation de l'IVG, un projet qu'elle avouera avoir écrit dans son lit. Elle s'éclaircit la voix, puis se lance. Elle a devant elle 9 femmes et 481 hommes.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
Un an plus tard, Simone Veil, la magistrate qui n'imaginait pas être ministre, qui n'avait jamais fait de politique, peut déjà voir les conséquences de sa loi. Dans la moitié des hôpitaux publics, il y a des centres dans lesquels on pratique des interruptions volontaires de grossesse. En 1978, un autre combat se tient à nouveau dans un tribunal. Le procès d'Aix-en-Provence secoue la France. L'histoire de deux jeunes femmes qui ont été violées et torturées par trois hommes alors qu'elles faisaient du camping sauvage dans la calanque de Morgioux. C'est à nouveau Gisèle Halimi qui défend les deux jeunes femmes et Françoise Kramer couvre l'audience pour Europe 1.
On dit déjà que l'affaire des violets de Morgioux sera pour la cause des femmes et pour la reconnaissance de cette agression intolérable qu'est le viol, ce que le procès de Bobigny a été à l'avortement. Et si Maître Halimi s'est en effet battu depuis 4 ans pour que l'affaire vienne en assise, alors qu'il était prévu qu'elle soit jugée en correctionnelle, ce n'est pas tant pour faire punir les agresseurs que pour faire reconnaître le viol comme un crime.
À l'issue de ce procès, un projet de loi définira le viol pour la première fois et une loi sera votée en 1980 qui punit le viol de 15 ans de prison. Pas à pas, dans la société, les femmes prennent leur place à côté des hommes. En 1981, Marguerite Yourcenar est la première à entrer sous la coupole de l'Académie française, reçue alors par Jean d'Ormesson.
Un mot inouï et prodigieusement singulier, Madame. Madame, c'est une grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette vieille et illustre maison où vous êtes non pas certes le premier venu, mais enfin la première venue. Je ne vous cacherai pas, Madame, que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes un grand écrivain. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir.
À droite, droite, en avant.
Le temps n'est pas encore venu de parler d'équilibre entre hommes et femmes, mais de leur faire une place. Dans presque tous les corps de métier, on voit progressivement l'arrivée de la première femme. Au début des années 80, Aviva Enorn est la seule femme chef d'orchestre à faire une carrière internationale et elle témoigne sur Europe 1.
Est-ce qu'en tant que chef d'orchestre féminin, vous aimez avoir des femmes dans votre orchestre ?
Peut-être dire une chose, c'est que les femmes sont extrêmement consciencieuses. Et très sérieuses dans leur travail. Peut-être parce qu'elles sont obligées de faire plus d'efforts pour s'imposer.
En 1982, une journée internationale des droits des femmes est créée le 8 mars. Dans les manifestations, elles parlent toutes de salaire et d'indépendance.
Il y en a marre d'être payées beaucoup moins que les hommes, enfin marre de tout ça, quoi, des trucs habituels.
Qu'attendez-vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est primordial pour vous ?
D'abord, un emploi pour toutes les femmes, que vraiment les femmes ne restent plus chez elles, qu'elles aient une autonomie financière, je crois que c'est la chose la plus importante.
Que de chemin parcouru. 8 ans plus tard, en 90, Antoinette Fouque, l'une des fondatrices du MLF, participe aux manifestations du 8 mars. Et elle estime alors que les femmes ont fait des pas de géant durant les deux dernières décennies.
Est-ce que les choses, selon vous, ont beaucoup évolué ?
Terriblement, je pense qu'il y a plus d'écart entre ma fille et moi qu'entre ma mère et moi. En 20 ans, les choses... Ma fille a une vie vraiment très, très, très différente de ce qu'a été la mienne à son âge.
Vous avez l'impression qu'elle est une femme plus complète, c'est-à-dire participant plus directement aux activités de la société française,
oui,
puisqu'on prend l'exemple français ce matin.
Oui, surtout, il faut le dire, elle a la maîtrise de la fécondité, que je n'avais pas, moi, à son âge. J'ai 53 ans, et c'était difficile, avant 68, d'avoir un accès vraiment libre dans toutes les couches de la société, à la contraception. Ne parlons pas de l'avortement, c'est impossible.
Les femmes se battent, mais face aux hommes et parfois à leur violence, elles ont encore peu d'armes. En 1992, un service téléphonique est créé pour les victimes des violences conjugales.
Depuis 15 heures, ça doit faire à peu près quelques 400 appels et 270 traités. On s'attendait effectivement à ce qu'il y ait des appels dans la mesure où régulièrement, sur tous les centres en France, c'est une cinquantaine d'appels qui leur arrivent par jour. On nous demande quoi faire quand on est battu, à qui s'adresser, où il faut s'adresser, des femmes qui sont à la rue et qui veulent avoir un numéro d'urgence. Ce sont des gens qui appellent pour des situations qui durent depuis très longtemps et qui ne savent plus quoi faire.
En 1998, la parité entre hommes et femmes fait son entrée dans la Constitution. La députée Christiane Taubira réagit au micro européen d'Ariane Bouissou.
En termes de constat, c'est plutôt un constat d'impuissance, puisque les droits des femmes sont déjà inscrits dans les textes. Je crois que ça prouve qu'il y a encore des combats dynamiques à mener au sein des sociétés, notamment des sociétés européennes, c'est-à-dire faire sauter les verrous qui empêchent les femmes d'accéder aux responsabilités dans les milieux politiques, administratifs, en fait dans les milieux de décision.
De nouveaux droits ont été obtenus depuis la loi Veil. Et le 21e siècle s'ouvre avec l'espoir pour beaucoup de femmes que le féminisme devienne aussi une préoccupation des hommes.
Et voilà pour ce deuxième épisode. Le troisième, c'est à 19h50 à ne pas manquer. Et ce podcast exceptionnel, mesdames, signé Europe 1, que vous pourrez réécouter dimanche 8 mars sur la plateforme Cybelle.
Dans un instant, Nathalie Lévy.
Dans un instant, nos invités pour ce deuxième plateau, Rebecca Amsalem, militante et auteure de Les Glorieuses, Louise Delavier de l'association En Avant Toutes et Sébastien Garcin, chef d'entreprise, militant, auteur de Sommet de la Pyramide. Nous débattons à la veille de cette journée internationale des droits des femmes.
Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, on lit vos messages bien sûr et vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921. Votre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h avec une édition spéciale ce soir, puisqu'on s'intéresse à cette journée de dimanche, le 8 mars, vous le savez maintenant, depuis 1982. C'est la journée internationale du droit des femmes. Le débat continue ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, avec vos invités jusqu'à 20h.
Oui, bonsoir à tous les trois, bienvenue dans ce studio. Rebecca Amsalem, vous êtes militante auteure des Glorieuses aux éditions Webeke. Louise Delavier, bonsoir et bienvenue, de l'association En Avant Toutes. Et Sébastien Garcin, bienvenue à vous, chef d'entreprise militant, auteur de Sommet de la Pyramide. Paris, Déconstruction d'un homme blanc, chez Amazon, donc on peut trouver entre autres sur Amazon. Vous avez peut-être écouté tout à l'heure dans ce studio Marlène Schiappa et Caroline Fourest. Je leur demandais si depuis le ministère et depuis la promesse d'Emmanuel Macron de faire de ce quinquennat de la cause des femmes une priorité, les choses avaient véritablement bougé. Il y a eu MeToo, il y a eu les marches, nous toutes contre les violences faites aux femmes aussi ces derniers mois. Rebecca M. Salem, il se passe clairement quelque chose aujourd'hui dans le monde quant à la lutte des femmes.
Oui, je pense que ça fait des années qu'on peut dire qu'il y a une révolution qui s'est amorcée, une révolution culturelle, une révolution symbolique. Et puis je pense que les femmes un peu partout dans le monde ont une prise de conscience générale sur le fait qu'on vit dans un système qui est bénéfique pour la moitié des personnes qui le constituent. Et à partir de là, effectivement, les femmes ne vont plus s'arrêter, elles ne vont plus s'arrêter tant que ce système ne changera pas. Je ne suis pas sûre que les choses aient radicalement changé depuis que la cause des femmes soit une priorité
du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Effectivement, il n'y a pas eu, en tout cas à mon sens, des mesures qui permettent de changer considérablement la vie des femmes. Alors effectivement, il y a eu l'index égalité, et c'est, il faut quand même le noter, qui du coup sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. Sauf que sanctionner, ce n'est pas suffisant. Sanctionner sans accompagner les entreprises vers plus d'égalité, ça ne va pas marcher. Il faut faire en sorte qu'il y ait une transparence des salaires en entreprise.
Mais comment on fait ?
On peut proposer aux entreprises, voire même obliger les entreprises à faire en sorte qu'il y ait une transparence des salaires au sein de leur organisation. Ce qui va permettre aux personnes qui postulent dans l'entreprise de savoir quel type de salaire elles peuvent demander. Et ce qui va permettre aussi aux personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise de savoir quel type de promotion elles peuvent demander.
Donc des mesures coercitives, vous pensez
alors,
que c'est...
C'est moins coercitif que de donner une amende si jamais l'entreprise ne respecte pas l'égalité salariale. Et il y a une dernière mesure qui est hyper importante sur cette question-là et que le gouvernement refuse de mettre en place, et là c'est problématique, c'est un congé paternité qui soit équivalent au congé maternité. Et c'est une problématique féministe. Il faut qu'il y ait un congé paternité qui soit équivalent. Parce qu'on se rend compte que, à la fois, c'est finalement un élément moral. Mmh. C'est important que dans une société, finalement, les pères aient le droit à un congé,
être auprès de leur nouveau-né durablement.
Et c'est aussi un élément économique, parce qu'on se rend compte que le salaire entre les femmes et les hommes, l'écart augmente considérablement au moment de l'âge du premier enfant.
On va évidemment s'en reparler dans un instant. Je voudrais vous donner la parole, Louise Delavier, de l'association En Avant Toutes, parce qu'il s'est passé quelque chose il y a deux jours de cela, une ouverture des portes, enfin, après 20 ans, rue de Vaugirard, à Paris, d'un lieu dédié aux femmes. Ça a mis 20 ans. Sous Bertrand Delanoë, déjà, il en était question. La première pierre aurait pu être posée. Et cela a mis 20 ans pour qu'il y ait un véritable lieu pour les femmes. Comment vous l'expliquez ? Expliquez-nous déjà en quelques mots ce que c'est.
Oui, la Cité Audacieuse, c'est un lieu effectivement qui est dédié exclusivement aux droits des femmes. L'idée, c'est de rassembler à la fois des associations qui sont spécialisées sur la question de la défense des droits des femmes et aussi de proposer, avec un lieu ouvert au public, une programmation qui soit elle aussi inclusive et qui puisse promouvoir ces droits. Effectivement, ça fait des années, j'ai envie de dire même des siècles, que les femmes, elles se réunissent entre elles pour essayer de s'organiser et de changer les choses. Et cette fois-ci, ce qui a changé véritablement avec l'ouverture de cette cité dans laquelle mon association En Avant Toutes est hébergée.
À côté du Sénat, c'est pas
anodin. À côté du Sénat, tout à fait. C'est un quartier vraiment sympa, on est hyper contente. Et c'est aussi un haut lieu de pouvoir, un lieu très symbolique. Ce qui est très bien pour les associations, c'est que nous, on a besoin de travailler dans des bonnes conditions parce qu'on est positionné sur des sujets qui sont compliqués. Quand on travaille sur les droits des femmes, on est des cibles. C'est pas facile.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que on est souvent attaqué pour ce qu'on dit quand on fait des passages médias, quand on en parle autour de nous. Souvent, c'est des choses qui sont compliquées à vivre. Le fait d'être rassemblé entre associations et de pouvoir en fait débriefer, pouvoir se soutenir, pouvoir s'aider, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Les femmes l'ont toujours fait. Mais cette fois-ci, on a des pierres autour de nous qui sont pensées pour
qui sont faites pour ça.
Ouais, exactement. Le symbole est fort.
Sébastien Garcin, vous êtes chef d'entreprise, vous avez signé Sommet de la pyramide des constructions d'un homme blanc, donc on va reparler salaire, évidemment parité en entreprise dans un instant. Vous entendez c'est Rebecca M. Salem et Louise Delavier. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui, depuis MeToo, depuis ces marches Nous Toutes contre les violences faites aux femmes, vous, comment vous observez ça en tant qu'homme ?
MeToo, ça a été un peu ma révolution, en fait.
Votre révolution ?
Oui. J'ai eu une éducation, j'ai une mère féministe, quand elle dit ça, ça la fait rigoler, mais c'est une réalité. J'ai eu une éducation finalement assez féministe qui ne disait pas son nom. Et j'étais finalement, comme beaucoup d'hommes dans mon entourage, pour l'égalité, tranquillement pour l'égalité. Et ok, c'est-à-dire qu'on est tranquillement assis dans un statu quo qui nous avantage parfaitement. Ouais. On est gentil, on tape sur personne, a priori pas trop, et on est pour l'égalité. Et il y a MeToo, en tout cas ça, ça a été mon chemin à moi.
Votre révélateur.
Mon révélateur, et là je me suis dit, en fait c'est autour de moi. C'est d'autres hommes comme moi, et donc finalement c'est moi. C'est-à-dire que je fais partie d'un club, je suis un homme blanc, hétéro, et dans ce club, je ne suis pas tout seul, dans ce club il y a Donald Trump, il y a Bertrand Cantat. Et alors je ne suis pas coupable de ce que fait Bertrand Cantat ou Donald Trump, mais en tant que représentant,
vous avez une responsabilité.
J'ai une responsabilité.
D'accord. J'entends ce que vous dites, vous allez nous en dire plus, et notamment sur le salaire des femmes, la parité en entreprise, bien sûr, mais pas seulement, les avancées aussi, la PMA, la GPA, on va en parler dans un petit instant. Et puis, je voudrais revenir avec vous sur ce qui s'est joué vendredi dernier, la 45e édition des Césars. Cela a aussi généré peut-être des crispations, voire plus encore. Vous allez nous dire après ça s'il s'est passé encore quelque chose. On se retrouve dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Florence Cohen.
Une centaine d'établissements scolaires fermés et les rassemblements de plus de 50 personnes interdits dans le Haut-Rhin. Le nombre de cas de coronavirus a été multiplié par 8 en 48 heures dans ce département. Deux nouveaux décès dans l'Oise, 9 morts en tout, 154 nouveaux cas en plus en 24 heures en Italie. Ce sont 40 nouveaux décès qui ont été enregistrés et 197 morts au total dans le pays. En visite dans une maison de retraite, Emmanuel Macron appelle à éviter autant que possible les visites aux personnes âgées déjà fragiles. Réunion interministérielle en ce moment autour d'Édouard Philippe. Quant aux places boursières, elles dégringolent, moins 4,14% à Paris. Le pape François accepte la démission du cardinal Barbarin. Le désormais ex-archevêque de Lyon avait été mis en cause, puis relaxé après ses silences sur les abus sexuels du père Prénat sur deux jeunes scouts. Quentin Fillon maillait deuxième du sprint de Nové Mesto en République tchèque. C'est du biathlon. Martin Fourcade est le grand perdant de la journée. Il n'est que sixième.
Merci Florence. L'info revient à 20h. Anissa, du côté du ciel pour ce week-end.
C'est plus calme, Nathalie, demain. Et ça fait du bien, effectivement. Il va quasiment pas pleuvoir demain. Voilà, c'est un temps sec sur l'ensemble du pays. Demain, restez tout de même prudents parce que nous avons actuellement 5 départements placés en vigilance orange par Météo France pour crue inondation. Il s'agit du Calvados, l'Eure-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres et le Tarn-et-Garonne. Demain, il pleuvra uniquement sur le sud-ouest, au sud de la Garonne et sur les Pyrénées. Des petites averses, mais qui vont rythmer toute la journée. Partout ailleurs, c'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le matin, nous aurons des gelées au centre et à l'est. Et puis dans l'après-midi, comptez 6 à 8 degrés au bord de la Méditerranée, 0 à 3 degrés au nord. On aura seulement 2 degrés à Paris et 8 à 10 sur la façade atlantique.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec ce soir une émission spéciale consacrée à la Journée internationale du droit des femmes. C'est ce dimanche, le 8 mars, et on en parle avec vos invités. C'est un débat ce soir entre Rebecca Amsalem, auteure des Glorieuses aux éditions Webeke, Louise Delavier de l'association En Avant Toutes, et Sébastien Garcin, chef d'entreprise, militant et auteur du Sommet de la pyramide, déconstruction d'un homme blanc, auto-édité chez Amazon.
Merci à vous trois d'être dans ce studio ce soir. On parlait des salaires dans un instant et c'est vrai que c'est ce qui occupe beaucoup aujourd'hui, ce qui questionne énormément la parité en entreprise, l'égalité de salaire. Vous parliez de sanctions, Rebecca Amsalem, pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Je me posais quand même la question, imposer à la fois la parité, des sanctions si les salaires ne sont pas à la hauteur. Est-ce que c'est pas aussi une manière de pointer les femmes et de dire bah elles sont pas capables, alors il faut le faire et donc il faut imposer. Et est-ce que ça ne devient pas contre-productif dans ce cas ?
Je pense que c'est l'excuse qu'on a donnée depuis des années, des siècles depuis qu'on est dans un système patriarcal, depuis le début en fait. Si jamais les femmes ne sont pas les égales des hommes, c'est de leur faute. Si jamais les femmes subissent des violences, c'est de leur faute. Si jamais les femmes sont moins bien payées que les hommes, c'est de leur faute. C'est toujours de la faute des femmes. Et puis finalement, c'est assez simple de dire que si jamais les femmes sont victimes d'une inégalité, c'est de leur faute. Ça rejette la responsabilité sur elles.
Mais qu'est-ce que vous répondez alors à ceux qui diraient on a imposé ce nombre de femmes parce que c'est la loi?
Je pense que déjà, ce serait quand même pas très correct de leur part de le dire.
Ça n'empêche pas des propos jusque-là.
Ouais, mais je pense que c'est... au-delà de pas être très correct, je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a plus de femmes diplômées en France que d'hommes. Et ça, c'est une donnée qu'on oublie souvent. Donc si jamais on dit oui, mais si jamais j'ai pas autant de femmes que d'hommes à mon conseil d'administration, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui ont les compétences pour l'être, qui n'ont pas forcément les épaules pour être à cet endroit.
Qui manque de confiance, par exemple. Il y a vraiment ce problème.
Mais en fait, c'est des excuses qui font qu'on ne veut pas arriver, ou en tout cas, on ne veut pas prendre des mesures pour vraiment faire en sorte d'arriver à cette égalité.
On ne veut pas prendre ces mesures. L'homme blanc.
Je pense que ce n'est pas une personne en particulier, non, c'est un système. C'est le système patriarcal. Ouais. Et en fait, il faut rappeler que les féministes ne se battent pas contre les hommes. Les féministes se battent contre un système patriarcal.
Alors, on va y venir à ce point-là, parce qu'il y a quand même des frictions en ce moment. Sébastien Garcin, juste une question. Comment vous expliquez-vous qu'il y ait si peu de femmes aujourd'hui dans les conseils d'administration du CAC 40?
Alors ça, je ne saurais pas l'expliquer. Je suis convaincu que Rebecca a beaucoup plus travaillé sur cette question et qu'elle pourrait y répondre avec plus d'éclairage. Moi, de mon point de vue de chef d'entreprise, j'ai une entreprise de technologie, une petite boîte.
C'est pour ça que je venais vers vous.
Une start-up de 7 personnes. Et j'ai pu enfin recruter une femme. Et je me désole finalement de voir ces métiers qui sont très demandés, plutôt très bien payés, dans lesquels il y a du boulot partout, dans lesquels il n'y a pas de femmes. Alors, est-ce que c'est de la faute des femmes? Non. C'est un système. La jeune femme que je viens de recruter, c'est une jeune femme qui a commencé sa carrière par une carrière littéraire. Et je pense qu'en fait, c'est un ensemble de choses qui l'ont poussée vers cette carrière, alors qu'elle, ce qu'il a fait kiffer, c'est le code. Et donc, à un moment, elle s'est reconvertie. Ouais. Donc, j'ai recruté une ingénieure qui était avant prof de français. Je suis très fier de ça. Et aujourd'hui, elle code. Et ça, c'est super, mais c'est une petite action.
Alors, peut-être Louise Delavier ou Rebecca Mselem sur le fait que, que les femmes sont absentes des conseils d'administration du CAC 40. La dernière, c'était Engie, il y a encore quelques jours.
Il ne faut pas oublier que dans la société, on a toutes et tous des biais sexistes. Ce sont des idées qui sont préconçues, qui sont insidieuses, qu'on ne maîtrise pas du tout, mais qui vont orienter la manière dont on pense, la manière dont on réfléchit, la manière dont on agit. Qu'on fasse partie d'un conseil d'administration ou qu'on soit en 6e au collège Jean Jaurès, on a tous ces biais sexistes. C'est pour ça que c'est extrêmement important et que ça fait partie aussi des priorités des luttes féministes de lutter contre ces stéréotypes. Nous, c'est ce qu'on fait à notre association avec nos activités de prévention. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est pas parce qu'on est président d'un conseil d'administration qu'on n'a pas ces biais sexistes. Et à ces personnes-là, je leur conseillerais vivement de se former auprès de personnes qui savent orienter ces idées-là pour pouvoir avoir une idée plus précise de ce qu'est la société aujourd'hui et pouvoir combattre ces biais sexistes.
On va se retrouver dans un petit instant parce qu'on le disait, il y a peut-être des frictions aujourd'hui dans la société. On a vu la 45e cérémonie des Césars. On voit aussi des voix qui sont discordantes. Elisabeth Badinter, les féministes laïques historiques, des voix qui sont peut-être un peu plus isolées aujourd'hui. Vous allez nous dire ce que vous en pensez.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec une édition spéciale ce soir consacrée aux femmes. Dimanche, nous serons le 8 mars. Nous sommes à l'avant-veille de la journée internationale du droit des femmes. Vous recevez ce soir Nathalie Lévy, Rebecca Mselem, militante et auteure des Glorieuses aux éditions Webeke, Louise Delavier de l'association En Avant Toutes et Sébastien Garcin, auteur du Sommet de la pyramide, déconstruction d'un homme blanc. Auto-édité chez Amazon.
Et je voudrais, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, entendre une voix qui a compté, que vous connaissez évidemment, dont vous vous êtes inspiré, Yvette Roudy, première ministre des droits des femmes, 1981 à 1986. C'est à elle que l'on doit entre autres la loi sur le remboursement de l'IVG, des lois sur l'égalité professionnelle, toute sa vie engagée. À 90 ans, elle n'a rien perdu de ses convictions. Quel regard porte-t-elle sur le féminisme aujourd'hui, en 2020? Théophile Cossa lui a posé la question aujourd'hui même pour Europe 1.
Les féministes se sont multipliées, je les regarde avec intérêt, et je constate qu'il y a de plus en plus d'associations féministes. Elles ont des droits, mais elles ne se sont pas débarrassées de tout. Elles ne se sont pas débarrassées du patriarcat. notamment. Le machisme est toujours là. Ce sont les hommes qui ont le pouvoir. Ce sont les hommes qui font la loi, y compris les mœurs, y compris la culture. Il est temps d'inverser les choses. Le temps est venu que les femmes prennent la parole. Elles commencent à le prendre, mais je pense qu'elles ont encore beaucoup de chemin à faire. On est au Moyen-Âge aujourd'hui. Maintenant, je suis curieuse de voir ce que les féministes vont faire. Je me demande jusqu'où elles vont aller, mais je souhaite qu'elles aillent jusqu'au bout. Lutter toujours. Le combat est incessant.
Cet esprit vif d'Yvette Roudy avec le sourire qu'on aime tant. Yvette Roudy qui nous parle quand même de Moyen-Âge hein, pour l'état actuel des droits des femmes. Ancienne ministre, on l'a dit, et qui vient de publier, parce qu'elle en a toujours sous le coup de lutter, toujours aux éditions Robert Laffont. Théophile Cossal a interviewé un petit peu plus tôt. Moyen-Âge, Rebecca M. Salem. J'allais dire, on a fait du chemin ces 50 dernières années. Est-ce qu'on va mettre 50 ans encore pour, faire quasiment la moitié du chemin, enfin l'autre partie du chemin. Mais quand elle nous dit Moyen-Âge, c'est dramatique.
C'est dramatique, effectivement. Alors, je pense que c'est aussi un élément de langage qui a vocation à encourager les femmes et les hommes à se battre pour le féminisme. Je pense que la condition des femmes est meilleure qu'au Moyen-Âge. Bien meilleure, mais en tout cas meilleure qu'au Moyen-Âge. Par contre, ce que je sais, c'est que entre maintenant et le moment où on va arriver à cette société égalitaire, ça va être très dur. Ça va être très dur parce que...
Est-ce que ça va être très dur, pardonnez-moi Rebecca, et puis bien sûr Louise et Sébastien Garcin, est-ce que ça va être très dur entre les hommes et les femmes, ou entre... dans l'ensemble de la société?
Je pense que ça va être très dur pour plusieurs raisons. Le premier élément, c'est qu'on va subir un retour de bâton. On a déjà commencé à le subir. Le retour de bâton, c'est une notion qui a été... créée par l'essayiste américaine Suzanne Faludi, qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une grande avancée des féministes, ben finalement, il y a un retour de bâton de la société, de la part des personnes qui ont les privilèges dans la société, qui ne veulent pas voir les femmes, qui ne veulent pas voir les femmes acquérir ces mêmes droits. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, avec la une de Télérama, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le recul de l'IVG un peu partout en Europe. On se rend compte, par exemple, qu'en Italie, 70% des docteurs utilisent leur clause de conscience pour ne pas pratiquer d'IVG sur leurs patientes. Et ça, effectivement, c'est un retour de bâton. Et l'autre élément, c'est par rapport aux hommes, effectivement, au-delà des rapports entre les femmes et les hommes, si jamais les hommes ne repensent pas, eux, de leur côté, ce que signifie la notion de masculinité, et notamment la notion de masculinité toxique, finalement, on aura beau faire tout ce qu'on veut, toutes les marches qu'on veut, toutes les lois qu'on veut, tous les lieux qu'on est en train de créer, ça ne marchera pas. Les hommes doivent s'engager davantage dans le féminisme en s'interrogeant eux-mêmes sur la notion de masculinité.
Alors, on conclura avec vous, Sébastien Garcin, mais il nous reste assez peu de temps, malheureusement. Je voudrais avancer un tout petit peu avec vous, Louise Delavier, pas vous poser la même question, mais simplement vous proposer cette réflexion. Elisabeth Badinter, féministe laïque, historique, qui aujourd'hui est attaquée clairement par les néo-féministes que certains appellent intersectionnels ou indigénistes. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'une femme qui a porté ce combat, Elisabeth Badinter, se retrouve pas aujourd'hui dans les combats menés aujourd'hui par des femmes plus jeunes?
Le féminisme, c'est un courant de pensée politique, historique,
et divers,
sociologique, et bien sûr divers. On ne dit pas, c'est extrêmement étrange que Nicolas Sarkozy et François Hollande ne soient pas d'accord.
Mais il y a une opposition très forte.
Oui, et c'est normal. C'est normal, parce qu'on est sur du débat d'idées, on est sur des conceptions de société qui sont différentes. Et heureusement qu'on a toutes ces voix qui sont extrêmement différentes, parce que ça permet de faire avancer la société.
Mais elle, c'est une femme, et elle craint pour vous, les femmes, elle craint pour les droits des femmes.
Oui, et nous
c'est
aussi.
Pas un homme qui dit ça, c'est une femme.
Effectivement, c'est les préoccupations qu'ont toutes les féministes. Moi, mon sujet, c'est les violences conjugales. Je crains aujourd'hui toujours pour les femmes. Là, on entendait Yvette Roudy dire « on est au Moyen-Âge ». Moi, j'entends des phrases en prévention qui sont « lors d'un rapport sexuel, les hommes pénètrent et les femmes ont mal ». Ça, c'est 2019 en France. Et c'est du collège. Donc oui, moi aussi je pense qu'on est toujours au Moyen-Âge, c'est des choses qu'on voit au quotidien, et si on met pas un gros coup de collier sur des politiques publiques qui sont pertinentes sur les droits des femmes et notamment sur la prévention, on va rester au Moyen-Âge encore un grand moment.
La prévention, c'était la question que j'allais vous poser, quelle serait la mesure qui permettrait de faire avancer les droits des femmes en France? Vous nous dites d'abord la prévention avec un grand P. Un mot juste, Sébastien Garcin, pour conclure, les hommes qui sont interpellés aujourd'hui par les femmes de plus en plus, en un mot, vous aussi, quelle mesure peut aujourd'hui faire avancer les droits des femmes en France? Alors, avec votre regard.
Moi, mon action, c'est de l'éducation. C'est-à-dire que je suis un homme, et en tant qu'homme, je parle aux hommes. Et le message pour ces hommes-là, c'est bougez-vous. C'est une question de justice, une question de justice sociale. Et bougez-vous, c'est à vous de bouger maintenant.
Merci beaucoup à tous les trois. En tout cas, se bouger, c'est effectivement aussi notre signature. Le monde qui change sur Europe 1. Et on l'a vu avec vous trois dans ce studio. Merci beaucoup d'être venus ce soir. La suite de notre podcast, mesdames, dans un instant.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h, Nathalie Lévy.
Et oui, vous avez pu découvrir les deux premières parties d'un podcast, Mesdames, qui retrace 65 ans de lutte et de conquête pour les femmes. Troisième épisode, tout de suite, avec les archives exceptionnelles d'Europe 1, de 2000 à aujourd'hui, le combat MeToo et comment impliquer les hommes dans cette lutte.
Mesdames, un podcast Europe 1.
Il faut pas simplement parler des filles, il faut aussi parler des garçons.
C'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle est moins capable.
Vers l'équilibre.
Un droit de plus pour une femme, c'est un droit en moins pour les hommes, c'est pas vrai.
L'or d'Autriche.
Et si les droits acquis par les femmes faisaient avancer les droits de la société tout entière? C'est ce que martèle l'avocate Gisèle Halimi, qui se confie à Frédéric Taddeï dans Regarde les hommes changer sur Europe 1 en 2006.
Dans notre pays, on devrait tous hurler. Comment il meurt une femme tous les trois jours dans un couple? Je dis bien dans un couple. C'est pas un ennemi qui va se venger d'une femme en la battant à mort. C'est son compagnon. Quand les libertés des femmes vont mal, eh bien prenez l'histoire, les libertés sont menacées. Et inversement, quand les libertés des femmes et les droits des femmes progressent, eh bien les pays sont en avance. Alors ça nous concerne tous et toutes.
Que les hommes se préoccupent de la question des femmes, c'est aussi la clé pour arriver à l'équilibre, pour Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, en 2011.
Je crois aujourd'hui que le féminisme n'est ni spécifiquement féminin, ni spécifiquement masculin, il doit être et féminin et masculin. La misogynie est un racisme. Ceci ne touche pas spécifiquement l'entreprise. Ça touche l'administration, ça touche la société en général. Mais bien sûr, l'entreprise n'est pas une île. L'entreprise est au milieu de la société. Et donc, dans l'entreprise, on constate, et je ne peux que le regretter, que la misogynie est encore beaucoup trop présente.
Elle propose que le congé paternité soit rendu obligatoire en France pour que le regard soit le même sur les hommes et sur les femmes. Parce que selon elle, c'est le regard sur le congé maternité qui freine la progression de carrière des femmes. Un an plus tard, en 2012, c'est un autre verrou qui saute. L'appellation « mademoiselle » disparaît des formulaires administratifs.
Personne n'imagine qu'on ait une case d'amoiseau pour les hommes. Ça n'apporte rien et c'est entré dans la sphère privée. Il ne s'agit pas d'imposer aux gens la façon dont ils se font appeler. Quelqu'un qui a envie de continuer à se faire appeler mademoiselle, ça la regarde. Mais c'est de dire que dans les démarches administratives, les démarches officielles, il n'y a rien qui justifie qu'on demande à une femme si elle est mariée ou pas. Et voilà, quand on vient faire une demande de logement, inscrire son enfant en colonie de vacances, on n'a pas besoin de savoir si vous êtes marié ou pas.
Les mots de Nora Singal, adjointe au maire de Fontenay, au micro de Camille Labrousse sur Europe 1. Presque 40 ans après la loi Veil sur l'IVG, une nouvelle génération de féministes prend le relais. Des femmes qui sont nées en pouvant maîtriser leur corps, leur sexualité et qui veulent pousser le combat encore plus loin. Des brèches ont été ouvertes, mais cela ne suffit pas, dit en 2010 la présidente du mouvement Ni pute ni soumise, Siem Apchi, dans la matinale de Marc-Olivier Fogiel sur Europe 1.
J'ai 35 ans et c'est vrai que la liberté à disposer de son corps, ça reste encore un beau rêve pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui dans nos quartiers populaires.
Est-ce qu'il faudrait généraliser à l'ensemble des établissements hospitaliers français ou cliniques l'accès à l'avortement, tardif ou pas?
Ah, complètement. Moi, je suis pour un service public. Complètement. Et je pense que tous les hôpitaux doivent pouvoir offrir ce service aux jeunes femmes aujourd'hui.
Comment vous expliquez qu'il y ait autant d'IVG alors qu'il y a un taux de contraception fort?
Pas d'éducation à la sexualité.
C'est voilà. Ça le problème.
Mais bien sûr. On ne connaît pas notre corps, on ne sait pas comment faire. Et puis, il ne faut pas simplement parler des filles, il faut aussi parler des garçons dans cette affaire. Et c'est ça le gros manque en France.
Parler au plus grand nombre, c'est désormais possible avec le développement des réseaux sociaux. En 2017, l'affaire Harvey Weinstein fait l'effet d'une bombe. Ce producteur de cinéma américain est accusé par 12 femmes de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol. Et l'affaire est relayée en quelques heures d'un bout à l'autre de la planète. Des millions de messages se propagent sur les réseaux sociaux, avec ce mot-clé « MeToo », moi aussi. Très vite, il devient un slogan brandi dans la rue, signe de ralliement des victimes de harcèlement sexuel, de violences sexuelles et sexistes, comme à Paris en 2018, dans ce reportage de Pauline Jacquot sur Europe 1.
Main dans la main avec son compagnon, Lorraine, 27 ans, marche pour ses droits et ceux de celle dont elle a écrit le nom en lettres capitales sur sa pancarte.
Pour ma grand-mère Christiane, 60 ans de violence, assassinée par mon grand-père, le machisme tue. C'était pour moi l'occasion de rendre hommage à ma grand-mère. Et je pense que c'est important de dire que tout ça, ça traverse les générations, que ça ne correspond pas juste à un ancien temps, que c'est encore très actuel.
Bruno défile pour la première fois contre les violences faites aux femmes.
Que ma fille grandisse dans un environnement où elle est d'abord un être humain et pas un objet sexuel. C'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle est moins capable.
Chaque homme a été en tant que dominant et donc du coup on doit se montrer allié en fait du mouvement et être capable de juste relayer la parole et pas prendre la vedette dans l'histoire.
Et tant que les violences seront toujours là, nous serons toujours dans la rue, promettent-ils, pour les combattre.
Les images racontent à elles seules ce monde qui change. Il y a de plus en plus d'hommes qui participent à ces manifestations. Les pères, les frères, les fils rejoignent leur combat. Mais en 2020, une femme meurt tous les deux jours en France sous les coups de son compagnon et les chiffres sont en augmentation. Dans le travail, les inégalités de salaire persistent. Les hommes gagnent en moyenne 20% de plus que les femmes pour un même poste. Et plus on progresse dans l'échelle des salaires, plus l'écart est important. Pour les féministes des premières heures, comme Yvette Roudy, qui a participé à 50 ans de combat, il reste aujourd'hui beaucoup à faire.
C'est le machisme profond qui imprègne malgré tout notre culture encore aujourd'hui. Je voyais là récemment encore à l'arrière des bus une espèce de pub pour je ne sais quoi qui représentait une femme nue. Pourquoi ? Je ne sais rien, moi, si ça doit exciter je ne sais qui. Est-ce qu'on continue de penser que l'exploitation du corps des femmes peut avoir quelque chose qui peut faire vendre encore une fois aujourd'hui ? Voilà, nous avons du retard. La France est un pays machiste, très profond. Les hommes ont tout à gagner, finalement, du développement des droits des femmes. L'ennui, c'est qu'ils ne le savent pas. Parce que certains hommes continuent de penser qu'un droit de plus pour une femme, c'est un droit en moins pour les hommes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un pas en avant pour l'humanité tout entière.
C'était la troisième séquence de ce podcast. Mesdames, vous avez pu l'entendre depuis 18h et cette édition spéciale sur Europe 1. L'intégralité, c'est dimanche, le 8 mars, pour cette journée internationale des droits des femmes. Vous pourrez réentendre ce podcast de 250 archives d'Europe 1, signé Laure d'Autriche et Sébastien Guidis. La conquête des femmes, leur combat d'hier à aujourd'hui, bien sûr. On se retrouve, nous, ici même, lundi. D'abord, Émilie Mazoyer. D'ailleurs, on ne sera pas là. On sera
non,
dans le Grand Est.
Bah oui, bien sûr.
On
va parler
dans un instant, mais Émilie Mazoyer d'abord.
Oui,
comment allez-vous?
Et c'est un voyage. Bah nous, comme c'est vendredi, on garde nos petites habitudes, bande essai des nouveautés avec ce soir un nouvel album de Jean-Louis Murat, mais alors ah oui, tellement en mode amoureux, c'est magnifique.
Si je m'attendais.
Il est tellement amoureux, il a appelé son album Baby Love. Jean-Louis Murat.
Il y a un petit côté chant fort, je trouve.
Ouais, puis
on doit dire ça ou pas?
Ouais. Oui, je pense. Moi, je suis assez d'accord, donc ça marche.
Merci beaucoup, Émilie Mazoyer. Ouais. On vous écoute évidemment avec votre invité. Et puis, nous, donc, lundi, à Uni, précisément dans le Grand Est, c'est là-bas qu'Europe 1 s'installe pour 2 heures, en tout cas votre grand journal du soir, pour vous proposer une nouvelle édition avant le premier tour des municipales dédiée aux déserts médicaux, à la fracture numérique, à la désertification globalement, et puis les initiatives pour repeupler les villages, les villes, les communes, les néo-ruraux aussi. Pourquoi s'installent-ils dans nos campagnes? Sont-ils en mesure de les repeupler? Cette séquence qu'on vous propose de 2 heures sur place avec nos invités, nos témoins, notre fil rouge. D'ici là, très bon week-end à tous.
Bon week-end et
merci
à lundi
ça,
en Meurthe-et-Moselle.
Merci de votre fidélité et écoutons ensemble le monde changé.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.